France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, il y avait des moments où les dieux et les humains décidaient d'en finir avec le malheur. Décider d'arrêter les malédictions qui détruisaient les familles pendant des générations et des générations. Les dieux cessaient de persécuter les mortels. Ce n'était pas facile pour eux. Ils avaient pris l'habitude de gonfler à tout bout de champ leurs gros muscles divins et de bomber leurs poitrines immortelles pour montrer qu'ils étaient les plus forts. Mais ça, de toute manière, on le savait. Les dieux, parfois, essayaient de changer, de se montrer inventif et bienveillant et d'aider les humains à bien vivre. Quant aux humains, il pouvait leur arriver parfois de décider de ne plus s'entretuer en famille, de ne plus se manger les uns les autres, de s'entendre et de s'organiser le mieux possible pour que la vie soit enfin libre et pacifique. Ça demandait du travail, et chez les dieux, et chez les mortels. Et parfois, ils y arrivaient.
Quand les dieux rôdaient sur la terre... Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
C'est ce qui est arrivé, finalement, enfin, avec cette incroyable famille de Tantale dont nous avons raconté les histoires sanglantes et sordides. Ces histoires étaient tellement horribles qu'elles en étaient arrivées à écœurer la nature, à faire que le soleil se voile les yeux et change sa course. Tantale, Pélops, Atrée et Thieste, Agamemnon, une série continue d'hommes criminels avides de pouvoir. Une belle galerie de portraits peu engageants. Une femme va tout changer. Elle ne va pas agir par goût du pouvoir, mais pour défendre tout simplement le droit de vivre normalement. Certes, son action sera sanglante, criminelle, mais par son acte violent, elle va obliger les dieux et les humains à reconsidérer leur manière de faire, de penser, de vivre ensemble. Cette femme est Clytemnestre. La femme du roi Agamemnon, ce grand chef qui a mené l'immense armée grecque à la victoire en prenant et en rasant la ville de Troie, après 10 années d'une guerre épuisante qui a mis à mal toute la Grèce et l'Asie. Clytemnestre, sa femme, l'a tué le jour où, plein d'orgueil et triomphant, Agamemnon est rentré chez lui, à Argos. Il ne s'attendait pas à être reçu de cette manière. Clytemnestre l'a saigné dans sa baignoire, en 3 coups. Elle avait ses raisons. Pour mener sa guerre, Agamemnon s'est cru obligé de mettre à mort leur fille, Iphigénie. Les dieux réclamaient cette mort. Sinon, l'armée grecque serait restée bloquée à terre indéfiniment, sans pouvoir prendre la mer. Agamemnon a longtemps hésité, puis a cédé. Il a fait égorger sa fille comme une chèvre. Clytemnestre n'acceptait pas cette mise à mort, même si elle a été exigée par les dieux. Elle voyait seulement que son mari a pris la vie de sa fille. Elle a supprimé ce mauvais père et mauvais mari dès qu'il a remis le pied en Grèce, après ses 10 années de guerre. Fin d'Agamemnon. Mais Clytemnestre vit pendant des années sous une menace permanente. Le fils qu'elle a eu d'Agamemnon, Oreste, est toujours vivant. Sa sœur Électre la confie à des étrangers le jour où leur mère, avec l'aide de son amant, a massacré leur père, Agamemnon. Oreste vit en exil, mais il va revenir. Clytemnestre a peur qu'il ne revienne quand il sera devenu adulte et qu'il cherche à venger son père en la tuant, elle, sa mère. Des années passent, et la peur de Clytemnestre finit par se réaliser. Oreste a grandi. Il revient d'exil. Il veut venger son père, tuer sa mère et récupérer son royaume. Il sait que ce ne sera pas facile. Il doit affronter un pouvoir fort, violent et solide, bien gardé, celui qu'exerce Clytemnestre et Égiste, l'homme qui est devenu son mari et roi d'Argos, en remplacement d'Agamemnon. Et puis, tuer sa mère, celle qui vous a donné la vie, ce n'est pas vraiment une chose simple. Même si c'est une vengeance, ça reste quand même un crime particulièrement horrible. Oreste demande alors son avis au dieu lumineux qui sait tout, Apollon, le dieu de Delphes. Ce dieu ne peut pas se tromper, il est le porte-parole de son père Zeus, le dieu suprême. Apollon est très clair, tranchant dans sa réponse à Oreste. Apollon lui ordonne tout simplement de tuer Clytemnestre, sa mère, et d'utiliser la ruse pour y arriver. Bon, c'est dur, mais Oreste obéit, d'autant qu'Apollon accompagne son ordre de menaces affreuses contre Oreste s'il n'obéit pas. Les dieux continuent à être très cruels avec les mortels. Oreste rentre secrètement dans Argos, sa ville. Il ruse et il supprime Clytemnestre, sa mère, et le mari de sa mère, Égiste, l'usurpateur. On se croirait dans un western. Le justicier arrive, solitaire, dans sa ville. Personne ne le reconnaît. À la fin, il gagne, en tuant tous les méchants. La ville avait peur de ces méchants. Grâce au héros solitaire, elle est enfin libre. Mais on n'est pas dans un western. D'abord, Oreste n'est pas vraiment un bon. Il n'arrête pas de parler de droit, de justice. Mais il agit comme un assassin et n'hésite pas à égorger sa propre mère. Il est souillé du sang de celle qu'il a engendrée. Et ce sang qui dégouline de son épée est en fait aussi le sien. Il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir. Et puis, Clytemnestre n'est pas vraiment une méchante. Elle a tué son mari, oui, et ça passe en général très mal auprès des Grecs. Surtout si ce mari était un grand héros, un roi respecté. Mais que pouvait-elle faire d'autre ? Son mari, Agamemnon, avait bafoué, nié sa maternité et sa vie de femme. Alors, elle a choisi de vivre quand même, et elle a pris un autre homme. Dans cette famille, Clytemnestre est la seule personne qui agisse de manière vraiment libre, sans être contrainte par un dieu. Elle prend tous les risques. Clytemnestre élève une protestation forte contre les ordres que donnent les dieux, contre les situations absurdes où ils mettent les mortels. Elle agit, et les dieux n'ont qu'à se débrouiller avec ça. Les dieux vont entendre la leçon, un peu tard. Pour ça, il faudra d'abord qu'elle meure, tuée par son propre fils. Clytemnestre, qui était une meurtrière, devient à cause de son fils Oreste, victime d'un assassinat. Morte, elle va enfin pouvoir vraiment protester. Elle en a le droit. Tout va alors basculer pour Oreste. D'abord, il est content et fier d'avoir tué sa mère, sans parler de son amant Égiste, qui n'a eu que ce qu'il mérite. Dans la tragédie, où Échille nous présente l'histoire du meurtre de Clytemnestre et d'Égiste, la tragédie qui s'appelle « Les Coéphores », Oreste exulte à la fin. Juste après avoir commis son crime, il exhibe sur scène les cadavres des deux amants enlacés et tués, les cadavres de sa mère Clytemnestre et de son mari Égiste. Et il en profite pour injurier copieusement sa mère.
« Voyez la double royauté de ce pays. Saccageur du palais, assassin de mon père. Majestueux alors, il siégeait sur le trône. Il s'aimait, et encore maintenant, pendant l'épreuve qu'on peut imaginer, fidèles à leur engagement, visiblement persiste leur serment. Ensemble, ils ont juré d'assassiner mon misérable père et de mourir ensemble. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tenu parole. »
Égiste, ça ne vaut même pas la peine qu'on en parle. Son cas est simple. Il a violé la loi. Il a été tout simplement puni. Mais elle, Clytemnestre, comment la nommer ? Comment la qualifier ? Oreste pose la question aux jeunes femmes qui l'entourent.
Mais elle qui a médité une pareille horreur contre l'homme dont elle porta les enfants dans son ventre, fardeau aimé pendant un temps mais qui devint pour elle un malheur détestable comme elle l'a montré, comment la vois-tu ? Une murène ? Une serpente née pour infecter tout ce qu'elle touche sans même avoir à mordre au seul contact de son audace et de son âme ? Comment vais-je la nommer et trouver des mots justes ? Piège à fauve ? Drap de bain et de mort qui s'enroule et tombe jusqu'aux pieds ? Je dis bien un filet de pêche, un filet de chasse. Qu'une telle créature n'entre jamais dans ma maison et que sans descendance, les dieux me fassent plutôt mourir avant. »
Mais le triomphe injurieux d'Oreste contre sa mère est de courte durée. Très vite, son esprit s'embrouille, Oreste s'affole. Une nausée immense s'empare de lui, il panique. Il essaye de se justifier à tout prix. Il rappelle que c'est Apollon, le dieu, qui a voulu le massacre de sa mère.
Moi, je ne sais pas où cela finira. Je mène des chevaux qui ont quitté la course, et ce sont mes esprits emballés qui m'emportent vaincu. Devant mon cœur, la peur s'apprête pour chanter, pour danser au son de la colère. Tant que j'ai ma raison, je dis à mes amis, je déclare que non sans justice, j'ai tué ma mère, tueuse de mon père, souillure et objet de haine des dieux. Quant au philtre incitateur qui a mené à cette audace, j'affirme que par-dessus tout, ce fut Apollon l'oblique, devin de la pitié, qui m'annonça qu'à agir de la sorte, je serais disculpé. Mais si je renonçais, je ne dirais pas le châtiment. Nul ne possède un art suffisamment aigu pour décrire ses souffrances.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Ta photo sur la bibliothèque tombe toute seule. Il n'y a pas de vent, pas de courant d'air. C'est une main sans poignet, sans corps, qui la jette vers moi, sans rien déranger d'autre, pour me faire entendre au bruit. C'est la main de l'oubli. Ta photo est tellement là, depuis si longtemps, que j'oublie toujours que tu es resté là. Image fantôme vole, toujours plus étrangement, pour caresser mes pieds ou faire un peigne à mes cheveux. Ta photo sur la bibliothèque tombe toute seule. Il n'y a pas de vent, pas de courant d'air. C'est une main sans poignet, son corps qui la jette vers moi, sans rien déranger d'autre, pour me faire entendre au bruit. C'est la main de l'oubli.
Pierre Judet de la Combe parle d'Athéna et des Érinies.
Ou comment arrêter une malédiction familiale.
Clytemnestre, bien que morte, commence à se venger. Depuis les enfers, elle envoie contre son fils des divinités horribles, des démons qui vont obséder Oreste, qui vont le persécuter pendant très longtemps. Ces créatures sont hideuses, leurs cheveux sont des serpents. Du sang s'écoule de leurs yeux, elles bavent, elles ressemblent à des chiennes enragées. Elles attaquent l'esprit d'Oreste, il est le seul à les voir. Les jeunes servantes qui sont près de lui ne les voient pas. Elles croient qu'il s'agit d'hallucinations.
Ah, femme servante, elles, semblables à des gorgones, tout en noir, leurs tresses de serpent si serrées, je ne peux plus rester.
Quels sont tous ces fantasmes qui t'emportent? Toi, le plus cher à ton père, résiste, ne crains rien. Tu as si bien vaincu.
Ces tourments ne sont pas des fantasmes. Évidemment, elles, les chiennes rancunières de ma mère.
Le sang encore est tout frais sur tes mains. De là ce trouble qui s'abat sur ton âme.
Prince Apollon, elles grouillent maintenant. Et de leurs yeux goutte à goutte, suint un sang plein de haine.
Ces chiennes invisibles qui attaquent Oreste, ce sont celles qu'on appelle les Érinies. Les divinités sanguinaires de la vengeance, les Romains les appelaient les Furies. Les Érinies ont hâte de laper le sang d'Oreste pour prix du sang qu'il a versé. Oreste devient fou, il perd ses moyens. C'est en pensant à cette scène que l'auteur de tragédie du XVIIe siècle, Jean Racine, a fait dire à son Oreste, à lui.
« Eh bien, fille d'enfer, vos mains sont-elles prêtes? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?»
Oreste n'a qu'un refuge, aller au plus vite chez Apollon, dans son temple de Delphes. C'est Apollon qui lui a donné l'ordre de verser le sang de sa mère. Seul ce dieu pourra, pense-t-il, le libérer. Mais les Érinies, les chiennes de sa mère, vont le poursuivre sans relâche. Échille fait de ces Érinies de très grandes et très anciennes divinités. Elles sont, selon lui, des enfants de la déesse Nuit. Nuit, la déesse primordiale, déesse de l'invisible, de la destruction, ne se mêle jamais aux divinités flamboyantes, magnifiques de l'Olympe, ses enfants non plus. Nuit travaille de manière cachée, mais décisive. C'est elle qui a engendré les moires, ces divinités du destin qui viennent vous cueillir sans que vous puissiez résister. Nuit a aussi mis au monde la mort, le sommeil, les rêves, la déesse querelle, et selon Eschyle, les Erini, ces déesses impitoyables, inflexibles du châtiment. Ces déesses sont vieilles et toujours vierges, comme des jeunes filles. Vieilles parce qu'elles ont la mémoire des crimes, même très anciens. Elles restent vierges car aucun dieu ne veut s'unir à elles. Elles n'ont pas le droit de participer au festin des dieux. Elles n'ont pas le droit de porter les robes blanches des fêtes. Les Erini sont méprisées, haïes par les dieux de l'Olympe. Mais restées à jamais jeunes filles, cela veut dire aussi qu'elles sont toujours fraîches, neuves. Un jour, Ariam Nouchkine, qui mettait en scène les pièces d'Eschyle racontant l'histoire des Atrides, me demandait « Pourquoi elles font peur, ces Erini ?» Je n'ai trouvé que cette réponse. « Parce qu'elles surgissent du passé au moment où on s'y attend le moins. » Comme si ce passé était toujours présent, sans oubli, sans pardon possible. Pour elles, le temps ne passe pas. Elles sont toujours fraîches. Un cauchemar qui va longtemps hanter Oreste.
Ariane Mouchkine.
Ça fait tellement partie de ce que nous n'avons pas l'habitude d'exprimer, de ce que nous refoulons, de ce qui est, je dirais presque, qui fait partie de nos rêves et de nos cauchemars les plus intimes, et que les Grecs ont eu le génie, la force d'exprimer. Et d'exprimer en découvrant le théâtre, parce qu'en fait, on voit le théâtre s'inventer.
Oreste, affolé par la présence des Erini, ces chiennes que sa mère a lancées à ses trousses, s'enfuit. Il quitte sa ville d'Argos et court à Delphes, chez Apollon, son protecteur. Les Erini ne vont pas le lâcher. Elles vont aussi à Delphes. Les dieux sont alors vraiment embêtés. Apollon, le dieu lumineux, solaire, ce dieu de la parole prophétique absolument vrai, a poussé Oreste à tuer sa mère. C'est évidemment Zeus qui lui en a donné l'ordre. Le meurtre du roi Agamemnon devait être puni. Sinon, il n'y a plus de justice divine. Zeus, dieu de l'ordre, de la loi, ne pouvait pas le supporter. Mais voilà que des divinités obscures, haineuses et assoiffées ont été lancées par Clytemnestre contre Oreste. Or, Clytemnestre était parfaitement dans son droit quand, depuis le royaume des ombres, elle a envoyé contre son fils les déesses nocturnes de la justice et du châtiment. On a là un conflit aigu, violent, entre deux types de divinités. Apollon et son père Zeus d'un côté, et de l'autre ses Erini, déesses très anciennes et sans pitié. Normalement, ces deux types de divinités coopèrent. Les divinités lumineuses qui siègent dans l'Olympe, Zeus, ses frères et sœurs et ses enfants, comme Apollon, Athéna, fixent les règles et désignent les coupables qui doivent être châtiés. Les divinités nocturnes, les Erini pleines de colère, exécutent ces décisions et persécutent les coupables sans relâche, jusqu'à ce qu'ils payent. Le monde ne peut fonctionner que s'il y a entente, alliance, entre les divinités du ciel et les vieilles divinités sombres de la nuit. Or là, ces divinités s'opposent, se détestent. Apollon a fait tuer Clytemnestre. Clytemnestre envoie les Erini contre son assassin qui est son fils Oreste. Rien ne va plus. Le monde ne peut plus fonctionner. C'est la crise. Les dieux, on l'a dit, sont bien embêtés. Comment vont-ils s'en sortir? Et les humains? C'est là que le théâtre montre son pouvoir fabuleux. Dans la vie courante, les Grecs redoutaient les Erini, ces démons. Elles sont invisibles. Elles peuvent rôder où elles veulent et vous surprendre en s'emparant de votre esprit quand elles le veulent. Eh bien, Eschyle, l'homme de théâtre, ne se laisse pas impressionner par elles. Il va les rendre visibles, ces Erini, bien présentes, charnellement, longuement, comme personnages de scène. On va les voir, on pourra leur parler, elles seront obligées de répondre, et on va entrer dans leurs pensées, dans leurs hésitations, dans leur colère, leur frustration. Elles vont cesser d'être des puissances lointaines, hors d'atteinte. Les Erini vont devenir des interlocutrices presque normales. Et surprise, elles sont répugnantes, oui, mais elles vont aussi devenir sympathiques. Et pour cause, la justice qu'elles défendent, celle de Clytemnestre, celle de la mère bafouée qui a tué pour venger sa fille, est plus qu'attachante et essentielle. Enfin, grâce au théâtre, on va voir les Erini. Nous sommes, au petit matin, devant l'entrée du temple d'Apollon à Delphes. La prêtresse d'Apollon, la Pythie, à prendre son service, comme tous les jours. Elle fait ses prières habituelles et sereines. Elle entre dans le temple. Mais elle en ressort vite, effrayée. Ce qu'elle a vu est inouï, monstrueux. Elle a vu un homme assis sur la pierre fabuleuse qui est au centre du temple, l'ombilique. Il porte les ornements d'un homme qui supplie le Dieu, qui demande grâce. Des bandelettes de laine et une branche d'olivier. C'est Oreste, en supplication. Autour de lui, il y a des femmes que la prêtresse ne connaît pas, ne reconnaît pas. Ce sont les Irinies. Elles ont suivi Oreste à la course, depuis Argos. Elles sont épuisées et dorment. Et elles ronflent, bruyamment.
Et je vois sur l'ombilique, d'une part, un homme, une saleté pour les dieux, assis en position de suppliant. Du sang, goutte à goutte, s'écoule de ses mains et d'une épée fraîchement arrachée. Il tient un rameau qui a poussé en haut de l'olivier, soigneusement couronné d'une longue bandelette de laine, un flocon éclatant de blancheur. C'est ainsi que clairement cela je le dirais. Et devant l'homme, cette extraordinaire troupe de femmes dort, assises sur des sièges. Non pas des femmes, des gorgones, dirais-je. Non, je ne reconnais même pas le type des gorgones. J'en ai vu déjà une fois en peinture. Elles volaient le repas de Phinée. Mais celles-ci, on ne leur voit pas d'elles. Elles sont noires et dégoûtantes en tout. Elles ronflent avec des râles informes et de leurs yeux suintent des gouttes détestables. Et leur harnachement, il n'est normal de le porter ni devant les dieux, ni sous les toits des mortels. La race de cette tribu, je ne la connais pas. Ni quelle terre peut se vanter d'avoir allaité cette espèce sans en être punie et sans gémir ensuite.
Pour l'instant, les Irinies sont inoffensives. Elles ronflent. Elles sont plutôt comiques, attendrissantes. Apollon en profite pour évacuer son protégé, Oreste. Il le lave du sang de sa mère qui dégouline encore de ses mains, de son épée. Et il lui ordonne d'aller à Athènes voir la déesse Athéna, fille de Zeus. Là, il y aura un procès pour lui. Oreste sera jugé et acquitté, dit-il. Il sera enfin libéré de ce cauchemar et pourra rentrer chez lui. Oreste s'en va précipitamment. Les Irinies se réveillent. Elles ne voient plus Oreste. Elles sont furieuses. Elles se lèvent. Elles envahissent la scène, se mettent à hurler, à chanter, à danser. Une légende dit, c'est une légende, que lors de la représentation, les Irinies faisaient tellement peur au public que des femmes ont fait des fausses couches et que des jeunes enfants sont morts d'effroi.
Pierre Judet de la Combe parle d'Athéna et des Erinnies.
La fin de la malédiction des Atrides.
Les Erinnies quittent Delphes. Bonnes chiennes, elles suivent au reste à la trace. Il a beau avoir été purifié, lavé par Apollon, le dieu purificateur. Son crime laisse toujours l'odeur du sang là où il passe. Les Erinnies le font errer par toute la terre, lui font traverser beaucoup de mers. La distance est normalement courte entre Delphes et Athènes. Mais Oreste, persécuté, affolé, doit courir partout dans le monde. Enfin, il arrive à Athènes et il se jette aux pieds de la grande statue de la déesse Athéna sur l'Acropole. Les Erinnies sont là, toujours collées à lui. Oreste implore la déesse.
Puissante Athéna, je suis venu sur l'ordre d'Apollon. Fais bon accueil aux criminels. Je ne suis pas un suppliant souillé, ni un qui n'a pas purifié sa main. Je suis tout émoussé et commusé par les lieux, fréquenté des mortels. J'ai parcouru la mer et parcouru le continent, toujours fidèle aux ordres oraculaires d'Apollon. Et me voici, dans ta demeure et devant ton image, ici montant la garde. J'attendrai l'arrêt de la justice.
Athéna entend la supplication. Elle accourt en personne. Elle est étonnée. Elle voit près de sa statue des êtres qu'elle ne connaît pas. Elle les interroge. Les Erinnies ne ressemblent à rien de ce qu'elle connaît. Elles sont horribles. Ce sont de vraies aliens. Mais Athéna, qui sait se contrôler, reste polie. Elle s'informe.
Maintenant que je vois ici cette compagnie, je n'ai pas peur, non. Mais mes yeux s'étonnent. Qui êtes-vous donc ? Je m'adresse à vous tous, à cet étranger accroupi devant ma statue. Et à vous qui ne ressemblez à rien de ce qui est né d'une semence, vous que les dieux ne voient pas non plus parmi les déesses et qu'on ne peut comparer à aucune forme vivante. Mais dire du mal du voisin quand il est informe, cette règle est très loin de ce qui est juste.
Les Erinnies déclinent leur identité, leur fonction, poursuivent les criminels jusqu'à ce que mort s'ensuive. Oreste raconte son histoire. Les deux adversaires, les Erinnies et Oreste, s'en remettent au jugement d'Athéna. C'est elle qui doit décider ce qui doit advenir d'Oreste. Les Erinnies ont confiance. Oreste est évidemment coupable. Il ne peut pas nier qu'il a tué sa mère. Même si c'est par peur du dieu Apollon qu'il a commis ce meurtre, il est coupable et doit payer, tellement son crime est horrible, contre nature.
Quel est l'aiguillon assez fort pour tuer une mère ?
Avec ces Erinnies, on voit s'affirmer l'idée que la justice est quelque chose de simple. Pour les Erinnies, la justice est automatique, mécanique. S'il y a eu tel crime, si ce crime est bien avéré, prouvé, le châtiment prévu doit suivre automatiquement, mécaniquement, sans discussion. Oreste a peut-être été poussé par un dieu à tuer sa mère, mais il reste tout simplement qu'il a tué sa mère. Il doit payer. Face aux Erinnies, Oreste va évidemment plaider les circonstances atténuantes. Il a tué, c'est vrai, mais il n'est pas le seul coupable. Apollon aussi est coupable. Il demande à Athéna de ne pas se contenter de juger l'acte, qu'il ne nie pas, mais de prendre en compte les raisons de cet acte, et notamment le rôle décisif d'Apollon.
J'ai tué celle qui m'a mis au monde, je ne le nierai pas, par un meurtre qui vengeait mon père, mon parent le plus proche. Et de cela, Apollon porte la responsabilité avec moi, puisqu'il évoquait, si je n'agissais pas contre les coupables de ce crime, des souffrances qui aiguillonneraient mon cœur. C'est à toi de dire le droit pour décider si c'était juste ou non, car je dépendrai entièrement de toi, et j'approuverai ta décision.
La réponse de la déesse Athéna est étonnante. Elle déclare tout de suite qu'elle ne peut pas juger. L'affaire est trop compliquée. Le conflit oppose entre elles des divinités, et pas seulement un criminel et sa victime. Oreste est coupable de violence, mais il est sous la protection des dieux de l'Olympe. De leur côté, les Erinnies sont puissantes, et ce qu'elles réclament, le droit pour Clytemnestre, ne peut pas être facilement évacué. Or, si elles ne gagnent pas, elles vont être féroces contre la ville d'Athènes, qu'elles peuvent mettre à mal dans leur colère. Pour Athéna, c'est trop difficile. Aucun être humain, aucun dieu ne pourrait être à la hauteur d'une telle affaire. Mais elle ne renonce pas. Athéna prend alors une décision inouïe, inattendue, qui va tout changer, tout débloquer. Une décision totalement nouvelle, qui fonde un nouvel ordre politique, la démocratie. Elle invente une nouvelle manière de juger en créant un tribunal public. Athéna se dit que cette affaire ne concerne pas seulement Oreste, qui est un étranger. Elle ne concerne pas seulement les dieux qui soutiennent Oreste ou qui le persécutent. Elle concerne directement la ville où il va être jugé, Athènes. Cette ville devra assumer les conséquences du jugement qui sera rendu au sujet d'Oreste. Athéna décide alors que ce sera la ville d'Athènes elle-même qui jugera. Elle convoque un groupe de citoyens d'Athènes qu'elle nomme juges, et elle ajoute qu'elle, la divinité qui règne sur Athènes, qui la protège, siégera avec ses juges. L'affaire, dit-elle, sera tranchée par un vote collectif, auquel Athéna participera. Les citoyens d'Athènes pourront avoir des opinions différentes sur la culpabilité d'Oreste, mais la somme de leurs voix fera une décision irrévocable et plus juste que si un seul juge prononçait le jugement. Athéna institue pour la première fois dans l'histoire un tribunal populaire qui aura à juger les crimes de sang. Ce tribunal sera installé sur la colline de l'Aréopage, un mont rocheux, sauvage, pelé, quasi vide. Il fait face à l'Acropole, la colline où Athéna a son temple et sa statue. Aréopage, et non Aéropage, veut dire colline, pagos, d'Arès, du nom du dieu de la guerre, le redouté Arès, fils de Zeus. Il y avait plusieurs mythes pour expliquer ce nom. Athéna en reprend un. C'est sur cette colline désolée, face à la citadelle grandiose de l'Acropole, que les Amazones, ces femmes guerrières sans peur et sans reproche, ont autrefois installé leur camp lorsqu'elles faisaient la guerre contre Arès. Athènes était mise en danger par ces femmes, comme elle l'est maintenant par les Erinies qui défendent la cause d'une femme, Clytemnestre. Mais les Amazones ont été vaincues. Le procès commence. Le dieu Apollon arrive à la dernière minute pour aider Oreste comme avocat. Il faut dire que cet Oreste n'est pas très brillant. Il ne sait que répéter la même chose. C'est le dieu qui l'a poussé à agir. Les Erinies paraissent sûres de leur fait. Apollon, pour la défense d'Oreste, emploie d'abord un argument d'autorité. Quand il a donné à Oreste l'ordre de tuer sa mère, lui, Apollon, obéissait à un ordre de son père Zeus. Or, Zeus est le dieu suprême et ne peut pas se tromper. Zeus ne peut donc pas se tromper quand il pose que tuer un homme, un père, comme l'a fait Clytemnestre, est mille fois pire que tuer une femme, une mère. Les Erinies ne se démontent pas. Elles peuvent tout de suite répliquer que Zeus n'a pas toujours respecté les pères. Il a envoyé le sien, Cronos, en prison, au fond du Tartare.
Dans tes paroles, Zeus privilégie la mort d'un père. Or, il a lui-même jeté dans les chaînes le vieux Cronos, son père. N'est-ce pas contradictoire avec ce que tu dis ?
Apollon répond que s'il le voulait, Zeus pourrait libérer son père. Mais Agamemnon, mort, ne sera jamais ressuscité. Puis Apollon avance un argument scientifique, destiné à prouver qu'en fait, tuer celle qui passe pour être mère, ce n'est pas si grave. En tuant Clytemnestre, Orès n'a pas tué sa mère, comme s'échinent à le dire les Erinies. Pour soutenir ce paradoxe, Apollon prend un ton d'expert scientifique, comme on le voit actuellement dans les procès. Il veut prouver par la science biologique qu'Oreste, en tuant Clytemnestre, n'a en fait pas tué une mère. Biologiquement, dit-il, Oreste est fils de son père et pas de sa mère, car il n'y a qu'une seule semence, et elle est masculine. Les femmes n'ont pas de semence. Les femmes, dit-il, se contentent d'accueillir dans leur ventre la semence mâle qui va se développer en formant un être humain. La femme ne donne pas la vie, elle est seulement hospitalière.
Celle qui accouche n'est pas la mère de son enfant. Malgré ce nom, elle est la nourrice du nouveau germe. Le géniteur est celui qui saillit. Elle, comme une hôtesse accueillant un hôte, conserve la jeune pousse, si le dieu ne lui fait pas de mal.
La plupart des Grecs de l'époque pensaient comme ça. L'homme donne, la femme reçoit. Ça rappelle beaucoup d'arguments entendus encore aujourd'hui sur la différence supposée naturelle, anthropologique, entre hommes et femmes, et sur les conséquences politiques, sociales qu'on peut en tirer pour perpétuer l'inégalité. À l'époque, il y avait quand même des scientifiques, comme le philosophe Empédocle, qui avaient reconnu l'existence de deux semences, féminine et masculine. Eschyle, qui connaissait bien sa philosophie et sa science, tourne la position d'Apollon, position commune à l'époque, en ridicule. Pour consolider son affirmation scientifique, Apollon donne comme preuve évidente et irréfutable la naissance de sa sœur Athéna. Elle est née sans mère, puisqu'elle est sortie directement de la tête de son père Zeus. On est très loin de la science. Les juges commencent à voter, en silence. Les Érinies menacent. Athéna, qui va déposer le dernier caillou dans l'urne des votes, dit qu'elle vote pour Oreste. Son argument est un peu ou même très perso, et pas du tout universel. Elle rappelle que, de fait, elle est née sans mère. À la différence d'Apollon, toutefois, elle ne défend pas par là une thèse soi-disant universelle, mais son histoire personnelle, sa préférence. On dépouille, et ça donne égalité des voix. Cela veut dire qu'Oreste est libre. La règle était en effet que si les votes étaient égaux, l'accusé serait acquitté. Cela veut dire aussi qu'Oreste a été sauvé par le vote d'Athéna en sa faveur. Sans ce vote, il aurait été condamné. Les juges athéniens qui représentent la ville ont en effet donné une majorité d'une voix aux Érinies. Oreste dit merci. Il affirme que sa ville, Argos, sera toujours l'allié d'Athènes. Et puis, tout content, il s'en va. Mais évidemment, c'est là que ça se gâte.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
On your way.
Pierre Judet de la Combe parle d'Athéna et des Erigny.
Ou comment régler un conflit insoluble.
Les Erigny sont en colère. Leur colère n'aura plus Oreste pour cible, mais la ville entière qui l'a libérée. Elles annoncent qu'elles vont assécher tout le territoire d'Athènes, qu'elles vont le rendre entièrement stérile, plantes, animaux, femmes. La terre elle-même sera malade.
Malheureuse, je suis privée d'honneur, lourde est ma colère.
Ah, sur cette terre-là,
mon cœur crache un poison.
Un poison fort comme ma douleur.
Gouttes infécondes sur le sol. En germera la lèpre,
sans feuilles,
sans enfants.
Ô justice, justice,
justice.
Courant sur la plaine, elle jettera sur le pays la gangrène. Ruine des hommes, je gémis. Io. Sombre ce destin, filles infortunées de nuit,
en deuil de nos honneurs.
Athéna essaye de les calmer, elle joue gros. Elle doit à tout prix éviter ce désastre. Étant fille de Zeus, elle pourrait agir comme son père a tant de fois agi, en utilisant l'arme suprême qu'est la foudre. Zeus a pu ainsi éliminer plein d'adversaires trop menaçants. Athéna dit aux Erigny qu'elle pourrait le faire, qu'elle pourrait les éliminer d'un seul coup par la foudre, puisqu'elle a accès au lieu fermé où cette foudre est cachée. Mais elle dit aussitôt qu'elle y renonce.
Vous n'avez pas perdu vos honneurs. N'allez pas, vous, déesse, par excès de colère, installer le désordre dans la terre des mortels. Pour moi, je m'en remets à Zeus. Et à quoi bon le dire ? Seul d'entre les dieux, je connais les clés de la chambre où la foudre est gardée par des scellés. Mais il n'est aucun besoin d'elle. Laisse-toi persuader par moi.
Pour Athéna, un accord est possible. Elle fait confiance à son langage, à sa capacité de persuader les Erigny. C'est très risqué face à la colère des déesses. Et petit à petit, ça marche. Il faut dire qu'Athéna fait une offre immense aux Erigny. Elle leur propose non pas un lieu, seulement un culte ou quelques marques d'honneur, mais un rôle central, éternel et décisif au cœur de la cité. La cité, dit-elle, ne pourra pas exister sans elle, sans leur présence continue sur place. Athéna déclare aux Erigny qu'aucune maison athénienne ne sera prospère, heureuse, sans l'aide des Erigny. Ce sont elles qui assureront le bonheur, le bien-être dans la cité. Toute maison qui ne respectera pas les Erigny sera ruinée. Le bonheur d'Athènes dépendra, dit Athéna, des Erigny. Comment les déesses de la colère, déesses hideuses, redoutables, pourraient-elles devenir d'un seul coup des déesses favorables, bienveillantes? Elles seront bienveillantes parce qu'elles vont être là, perpétuellement, pour chasser, jour après jour, les méchants, les injustes, qu'elles vont sévèrement châtier. Et surtout, elles seront bienveillantes parce qu'elles vont inspirer aux citoyens la vénération des lois, le respect des règles communes. Quiconque ne respectera pas ces lois leur sera livré. La présence continue des Erigny, leur dit Athéna, fera que les citoyens auront peur de transgresser les lois. Grâce à elles, les citoyens vont vivre dans le respect des lois. Or, ce respect est la condition du bonheur individuel et collectif. En effet, la loi, ce n'est pas seulement une série d'obligations, de normes, de contraintes plus ou moins supportables. La loi, pour les Grecs, est avant tout une juste répartition des moyens de vivre. Chacun a sa part et doit la respecter, sinon tout s'effondre. Les Erigny seront là pour veiller sur le respect de ce bon partage qui fonde la cité et qui lui permet d'être prospère. Athéna leur confie donc le soin de veiller sur tout ce qui se passe dans la cité, de le surveiller, de l'encadrer. Elle ne demande pas du tout aux Erigny de changer. Elles seront toujours les mêmes, comme elles étaient, terrifiantes, redoutables, hargneuses. Elles feront peur, mais elles seront tout cela pour le bien de tous. Athéna, quant à elle, s'occupera de la guerre, de la défense de la ville contre ses ennemis extérieurs. La paix intérieure dépendra désormais des Erigny. C'est la proposition d'Athéna. Les Erigny écoutent, puis se disent tentées, puis finalement elles acceptent la charge politique immense et primordiale que leur propose Athéna. Elles finissent par exulter, par laisser éclater leur joie. Elles bénissent la ville. Elles souhaitent qu'aucune catastrophe, aucune famine, aucune épidémie ne la ravage. Elles souhaitent que les Athéniennes soient fécondes et heureuses. Elles défendaient le droit d'une mère avec Clytemnestre, ce droit. Elles l'étendent à tout un pays. Elles disent qu'elles vont veiller à ce que Athènes connaisse la paix. Elles disent qu'elles vont protéger la ville contre la violence interne, contre le meurtre, contre la guerre civile.
Je prie pour que jamais la dissension ne gronde dans cette ville et que la poussière ne boive pas le sang noir des gens de la ville. Qu'entre eux, ils échangent des plaisirs
par une réflexion d'amitié commune.
Happy End. Un cortège spectaculaire, illuminé par des torches, accompagne les Erinyes vers le lieu de leur nouveau pouvoir. Un sanctuaire souterrain tout près de l'Acropole. Sanctuaire encore visible aujourd'hui. De là, elles feront régner la justice, la loi, la prospérité et l'entente politique. Échille a appelé sa pièce les Bienveillantes, les Euménides. Il désignait par là les Erinyes qui, de fait, sont devenues bienveillantes pour Athènes à la fin de la pièce. Mais comme d'habitude, Échille joue sur les mots. Bienveillante, Euménide, était en réalité le nom par lequel on appelait d'habitude les Erinyes. On employait ce mot élogieux, positif, parce qu'on savait très bien qu'elles étaient en réalité très malveillantes, cruelles, persécutrices, dangereuses. Il ne fallait surtout pas leur déplaire, par précaution, pour ne pas les heurter, pour ne pas susciter leur colère. On utilisait pour les appeler un mot qui disait l'inverse de ce qu'on pensait d'elles. Un euphémisme, comme on dit. Mais avec cette histoire, les Erinyes sont doubles. Elles restent redoutables, déplaisantes, déesses de l'horreur. Mais elles seront tout cela pour le bonheur de la cité. Elles seront vraiment bienveillantes. L'histoire que j'ai essayé de présenter est prodigieuse. S'il n'y avait pas eu cet accord final entre Athéna et les Erinyes, entre une représentante de Zeus et ses filles de la déesse Nuit, il n'y aurait plus d'ordre du monde, d'ordre des choses. Tout éclaterait dans une guerre sans fin. Le monde ne peut fonctionner, ne peut être équilibré, pacifié pour les dieux et pour les humains, que s'il y a entente entre ces deux pôles si différents que sont les dieux de l'Olympe et les divinités d'en bas de l'obscurité. Le monde ne tient, n'est cohérent et vivable que s'il est porté par un accord politique entre les puissances qui le composent. Ce que la pièce rappelle est que cet ordre du monde n'est pas donné, n'est pas naturel. Il faut le produire par l'échange. Le pari fou d'Athéna est de renoncer à toute violence et de s'en tenir au moyen politique par excellence, qui est une institution qui donne toute sa place au langage, à la persuasion, à la reconnaissance mutuelle. C'est le moyen qu'elle choisit pour que la cité repose sur une base solide. Tout se joue sur scène, dans le dialogue. Aucun dieu, aucune force n'intervient du dehors. La cité se crée elle-même, grâce à ce langage partagé.
Jean-Philippe Guinl.
Oui, c'est un moment absolument unique. C'est le moment où la justice cesse d'appartenir seulement aux dieux, mais où Athéna, dans les Euménides, confie la justice à des hommes. On voit que l'homme a sa part dans la justice. Mais bien sûr, il faut bien voir que ça demeure extrêmement ambigu, dans la mesure où le vote en faveur d'Oreste n'est possible que parce que la voix d'Athéna permet de faire pencher la balance du bon côté, et finalement, le combat entre les dieux reste sous-jacent, au fond, à la conception que les hommes peuvent avoir de la justice.
La pièce « Les Euménides » a été écrite, mise en scène et jouée par Échille, à un moment où la cité d'Athènes passait par de grandes turbulences et violences politiques, en 458 avant Jésus-Christ. La démocratie se mettait laborieusement en place et Échille soutenait cette révolution. Sa pièce donnait un avertissement. Elle rappelait ce que signifie le vivre ensemble. Par l'histoire mythique qu'il racontait, il montrait qu'une cité ne peut vivre, ne peut durer, s'il ne se donne pas les moyens de traiter équitablement, pacifiquement, un cas aussi improbable, inextricable et violent que le matricide horrible commis par Oreste. L'avertissement vaut encore aujourd'hui. Les Erinyes croient d'abord dur comme fer au caractère mécanique de la loi. Elles réclament des peines automatiques. Tel crime doit nécessairement entraîner telle sanction. On croirait entendre les impatiences des défenseurs empressés d'une justice expéditive et machinale. Athéna, à l'inverse, impose aux Erinyes le temps du procès, de la délibération contradictoire. Elle impose l'idée qu'il n'est pas mauvais que les avis des juges soient contraires, partiels, personnels. Cela n'empêche pas qu'une décision nette soit finalement prise collectivement. Un jugement. Devant affronter une situation totalement inconnue, improbable, cet Oreste criminel, à cause des dieux de l'Olympe et poursuivi par des déesses puissantes et dangereuses, Athéna innove. Elle crée une institution qui soit à la hauteur de la nouveauté qui lui tombe dessus avec le cas Oreste. Elle ne traite pas le cas d'Oreste à partir de statistiques et de probabilités tirées d'une banque de données, comme cela tend à s'imposer de plus en plus avec l'informatisation, l'automatisation de la justice. Il faut, pense Athéna, que les juges prennent en personne le risque du jugement. Encore merci, Échille.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechen. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La semaine prochaine, nous parlerons d'Athéna, artisane et combattante. Bonne journée sur France Inter.